Merci beaucoup. Merci Didier Blanchet. À ce stade, et je m'adresse surtout à vous, nos amis étudiants qui sont dans la salle, vous avez à travers ces trois interventions sur les trois groupes et avec l'introduction qui a été faite par Roger Guenry, une présentation, un tableau complet des travaux de cette commission, aussi un tableau complet des réflexions des économistes sur ces sujets qui sont quand même, je le disais tout à l'heure, un petit peu nouveaux dans la réflexion d'ensemble. Donc je pense que le mieux, c'est peut-être de donner la parole à la salle. Vous avez certainement beaucoup de questions. Vous me permettrez peut-être d'en évoquer une en écoutant ce que disait Laurence tout à l'heure et Roger en préambule. Est-ce que sur tous ces domaines un petit peu nouveaux, encore une fois, est-ce qu'il n'est pas finalement beaucoup plus difficile de mesurer le bonheur que de mesurer le malheur ? Je m'explique, c'est pas seulement une boutade. On a le seuil de pauvreté, c'est quantifiable, on a des tas de... Mais là, on est dans des domaines, il m'a semblé, en vous écoutant, j'allais dire, ce sera pas tout à fait facile d'avoir des instruments de mesure équitables dans tous ces domaines. Roger, qu'en pensez-vous ? Peut-être Laurence aussi après. Vous voulez commencer ?
Moi, je veux bien juste réagir un peu. Enfin, Laurence peut le faire. Moi, je ne crois pas du tout qu'on peut mesurer le bonheur. Hein. C'est-à-dire que je crois que on peut avoir des indicateurs. L'idée d'avoir un indicateur synthétique qui mesurerait le bonheur national brut, bon, qui est esquissé un petit peu dans le rapport, il y a une discussion sur la manière dont on pourrait faire. Moi, j'ai tendance à pas y croire, hein, sans me démarquer de ce qu'a dit la Commission ou de ce qui est écrit. Simplement, alors, ce que vous dites est vrai, c'est plus facile d'appréhender des situations d'insatisfaction assez profondes que des situations de satisfaction profonde. Et le bonheur, comme dit Prévert, on le reconnaît au petit bruit qu'il fait quand il s'en va. Donc le bonheur est difficilement mesurable. Et moi, je ne crois pas tellement aux indicateurs synthétiques. C'était un peu le message de Didier, et c'est un peu le message du groupe 3, hein, auquel j'appartenais. C'est que, au fond, dans ces domaines, vouloir résumer la durabilité, la qualité, la protection de l'avenir, le souci des générations futures par un seul indicateur, c'est une tâche un petit peu vaine. Et il faut mieux. Mais alors, le problème, c'est que quand on dit ça, la question, c'est pas qu'on manque d'indicateurs. Hein. Le problème d'indicateurs, c'est pas le vide. Le problème des indicateurs, c'est le trop-plein. Et à mon avis, ce qu'a fait la Commission, et qui est bien, c'est qu'elle a mis de l'ordre là-dedans. C'est-à-dire qu'elle n'apporte pas des choses dans lesquelles il n'y avait rien. Elle essaie d'ordonner pour éviter ce trop-plein.
Oui, la Commission ne propose pas de mesurer le bonheur. Hein. Moi, je ne saurais pas faire. Et... la Commission non plus. Ce qu'elle propose, c'est qu'en plus des mesures objectives de la qualité de la vie qui sont absolument essentielles. Hein. En plus de ces mesures, elles trouvent souhaitable d'avoir des mesures subjectives de la qualité de la vie. Mais comme je vous l'ai dit, on ne demande pas aux gens est-ce qu'ils sont heureux ou est-ce qu'ils ne sont pas heureux. Quoi. On leur demande d'évaluer leur satisfaction générale dans la vie ou on leur demande quel est leur sentiment à un moment donné, s'ils sont stressés ou pas, s'ils sont en colère ou pas. On ne leur demande pas de mesurer leur bonheur, hein, c'est des choses différentes. Et deuxième point, clairement, oui, il est plus facile de mesurer des situations où les gens sont dans des sentiments négatifs que d'évaluer les sentiments positifs, quoi, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que la proposition de l'indicateur U, hein, de mesure du temps qu'on passe dans des états négatifs est intéressante en soi.
Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, vous êtes très nombreux, vous avez la parole, je pense qu'il y a des micro-baladeurs dans la salle. Si vous avez la gentillesse, peut-être, d'accéder à un micro et de vous présenter et de dire éventuellement à qui vous destinez votre question, je vous en remercie. Question courte, réponse courte, merci. Je vous en prie, oui. Pardon, excusez-moi, on vous entend, c'est mal. Vous avez une...
J'ai une question concernant la sous-évaluation du PIB. Le PIB marchand, c'est bien clair. Le PIB non marchand, c'est une méthode. Et ma question concerne les services rendus par la nature. Les économistes essaient de plus en plus de chiffrer les coûts de la nature.
Et actuellement, on est aussi riche de tous les services annuellement que nous rend la nature, la pollinisation, les zones humides, et on en passe. Et dans cette évaluation du PIB, elle peut nous faire défaut, cette richesse que nous apporte la nature. Et indépendamment d'évaluer les pollutions dans du PIB vert, est-ce qu'on n'a pas, dans un premier temps, une nécessité d'évaluer notre véritable richesse, à savoir ce que l'on produit, mais aussi ce que la nature nous donne gratuitement ? Voilà ma question.
Merci. Je crois que Didier, vous avez évoqué la question.
Oui, c'est effectivement une autre façon d'approcher ces questions d'environnement. C'est vrai qu'on n'a pas tellement privilégié cette façon d'aborder la question dans notre groupe, parce que, comme je l'ai réexpliqué, notre question, c'est plutôt la question de la soutenabilité. C'est-à-dire que la nature rend des services. Notre question, c'est plutôt ce capital naturel qui permet que ces services soient rendus, comment évolue-t-il et qu'est-ce que ça implique pour la situation des générations futures. Donc, on évoque un petit peu cette littérature comptabilité très, très globale des services rendus par le PIB, mais l'accent a plutôt été mis sur la question de la dépréciation du capital naturel. Donc, voilà.
Oui, François.
Non, simplement un petit mot pour réagir sur un terme qui a été employé dans la question, qui est le terme de richesse. Et je crois qu'il est assez important d'insister sur le fait que la façon qu'on en a d'aborder toutes ces mesures de satisfaction ou de performance économique et de progrès social, il y a deux composantes. Il y a une composante de flux qui est quel est le revenu annuel ou mensuel, quelle est la consommation de biens, de services, etc. Il y a une notion de stock. Quelle est la totalité du stock d'équipements dont on dispose, quelle est la richesse financière dont on dispose, mais également, évidemment, quelle est la richesse naturelle dont on dispose. Et le problème de la soutenabilité, c'est finalement de mettre en regard une comptabilité en termes de flux, qu'est-ce qui se passe de façon annuelle, et une comptabilité en termes de stock, donc en termes de patrimoine ou de richesse.
Merci. Une autre question ? Attendez, je reviens vers vous après, je vous en prie, au deuxième rang. Et ensuite, madame.
Oui. Allô ? Oui, plus qu'une question, c'est plus une intervention, elle peut paraître provocatrice.
Si vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît.
Oui, je disais plus qu'une question, c'est une intervention qui peut paraître provocatrice, mais j'ai l'impression quand même que la commission a accouché d'une souris. C'est-à-dire que je suis professeur depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que, en enseignant auprès des élèves de première et de terminale, notamment sur le calcul du PIB et ses limites, on fait déjà ces quelques propositions depuis des années et des années. Et donc, à vous entendre et à lire les différents papiers sur le rapport de la commission, on n'a pas l'impression, effectivement, que vous ayez beaucoup avancé. Alors, l'idée, c'est...
Vous voulez répondre, Roger ?
L'objectif.
Je crois. Attendez,
s'il vous plaît.
Je parlais tout à l'heure en préambule de Festival d'Europe, mais on se calme quand même. C'est un endroit où on débat, ok ? D'accord ? Soyez gentils, nous sommes là pour débattre, pour entendre toutes les questions, les questionnements et les questions difficiles. Mais. Dans la bonne ambiance, s'il vous plaît.
Je termine rapidement.
Ben, je crois que vous avez dit l'essentiel, non ?
Oui, mais j'ai bien compris que vous avez vulgarisé... J'ai bien compris que ça a été vulgarisé dans votre présentation et elle est très générale. Mais pour aller plus loin, même, je me demande si cette commission n'est pas d'une certaine façon, et si vous n'avez pas été victime, d'une certaine récupération politique. C'est tout.
Récupération politique. Vous voulez intervenir ? Oui. Je vous dirai un mot après tout à l'heure. Oui. Bon, s'il vous plaît. On se calme.
Je pense que d'abord, deuxième point, je ne crois pas qu'il y ait des récupérations politiques, quelles qu'elles soient. Les opinions qui ont été exprimées par la Commission, les personnalités de la Commission, je crois, sont au-dessus de tout doute qu'on puisse avoir sur ce sujet-là. Mais je voudrais revenir sur le premier point. Est-ce que cette Commission a couché une souris ? Je crois que dans ces problèmes de la mesure des performances économiques du progrès social, il y a toute une série de questions conceptuelles qu'il est absolument capital d'aborder. On l'a répété à plusieurs reprises, la Commission, effectivement, passait en revue tous ces problèmes conceptuels. Je suis ravi d'entendre que vous enseignez ça depuis des années à vos étudiants. Je pense qu'il y a tout de même des aspects de compréhension des phénomènes qui sont derrière ces questions de mesure, qui sont des choses complexes et qui avaient besoin d'être mises ensemble pour qu'on puisse évaluer la cohérence de l'ensemble. Maintenant, quand vous dites que la commission a couché une souris, je crois que vous faites référence au fait que finalement, on constate qu'il y a ces différents problèmes dans les mesures existantes, on constate qu'il existe des bases de données qui permettraient d'aller plus loin. C'est les emplois du temps dont parlait Laurence, c'est la comptabilité des ressources naturelles dont a parlé Blanchet. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on arrive à combiner ces différentes informations et à produire un nouvel indice? Je crois que systématiquement, la réaction au rapport de la commission, c'est-à-dire mais finalement, oui, très bien, mais c'est quoi votre nouvel indice? Et je crois que c'est là que, justement, il faut faire très attention. Il n'y a pas de nouvel indice. Si on veut proposer un nouvel indice qui va résumer tout ce qu'on vient de dire, alors on va tout noyer. Par contre, la commission recommande que les services statistiques des différents pays, en particulier et avant tout en France, l'INSEE, prennent en compte un certain nombre des remarques qui sont faites, prennent en compte de l'information qui existe et qui, pour l'instant, n'est pas utilisée ou n'est pas combinée ou montrée en liaison avec d'autres types d'informations, plutôt de type monétaire. Maintenant, cette partie du travail ne relève plus exactement de la Commission. La comptabilité nationale, du point de vue des concepts, elle a été inventée par un certain nombre d'économistes qui ont bien vu la façon dont il fallait procéder. Ensuite, on a eu des statisticiens qui ont travaillé pendant des années et des années, qui continuent de travailler pour essayer d'améliorer ces concepts ou cette mesure statistique, la façon dont pratiquement on peut procéder de la comptabilité nationale. Ce qu'il faut faire à partir de maintenant, à partir de ce constat et de ce tour d'horizon qui a été réalisé par la Commission, c'est effectivement rentrer dans cette partie du travail qui est comment est-ce qu'on passe de ça à des concepts qui sont pratiquement facilement compréhensibles et qui peuvent être produits de façon pratique. Mais je ne crois pas qu'on puisse négliger le travail initial qui a été fait par la Commission. Plus que de la critique, il y a véritablement des propositions de construction qui nous permettront d'aller de l'avant.
Merci. Un mot, Roger, Didier, et après, Laurent. Un mot, bref.
Oui, non, moi, je veux juste compléter. Effectivement, ce qu'a fait la Commission, c'est un travail de réflexion qui reprend des choses qui existent, hein, qui les a reprises et remises à sa manière, qui a progressé. Je crois que c'est un rapport qui apporte pas mal de progrès sur ce sujet. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de comptabilité nationale. Hein, j'ai lu beaucoup, moi, j'ai lu des milliers de choses. J'ai appris vraiment énormément de choses. Alors, je n'avais pas eu la chance de suivre vos cours, ça, c'est dommage. Mais la question, j'ai vraiment appris énormément de choses. Mais et je peux vous dire que sur toute une série de problèmes sur lesquels on a discuté, on a donné des réactions. Dans la commission, il y a eu des discussions passionnées. Moi, je me suis alpagué avec Joe Stiglitz de 3 francs en lui disant « Mais c'est complètement faux, ce truc, etc. » On sait... Il y a eu des discussions passionnées. Alors, si toutes ces choses sont évidentes, c'est possible, elles sont peut-être évidentes pour des gens. Par ailleurs, le rapport est ce qu'il est. Lisez-le et vous verrez si vous maintenez votre sentiment ou pas. Mais moi, je voulais dire que je donnais simplement le témoignage d'un des membres qui trouvait que c'était pas si évident que ça.
Oui, pour aller dans le même sens, là. Enfin, ça correspondra à peu près à ce que j'ai dit, de toute manière, en introduisant le travail du sous-groupe 3. Hein. Le rapport n'a pas prétendu apporter d'innovation conceptuelle majeure. L'apport, c'est plutôt dans le sens de la clarification. Et je pense que, de ce point de vue-là, on n'enfonce pas forcément que des portes ouvertes. Ce que j'ai dit, par exemple, sur la nécessité de bien distinguer mesures du bien-être courant et mesures de la soutenabilité, c'est quelque chose qui ne va pas complètement de soi. Vous trouvez encore beaucoup d'approches de cette question qui essaient de mélanger les deux dimensions. Et à mon sens, c'est un facteur de brouillage et qui a tendance plus plutôt à paralyser les avancées plutôt qu'à faire progresser le sujet. Et sur les récupérations éventuelles, je pense qu'il faut essayer de les positiver d'une certaine façon. Il faut plutôt voir ça comme un levier, effectivement. On reprend des choses qui sont dans l'air du temps, et parfois depuis la création même de la comptabilité nationale, François Bourguignon l'a repris, mais qui ne sont pas forcément traduits dans des actions concrètes. Et donc, il faut voir ce rapport plutôt comme une espèce de levier pour faire évoluer des choses dans la bonne direction, même si des fois, ça reprend des choses qu'on savait auparavant.
Merci beaucoup. Juste un mot à titre personnel. Vous avez exprimé un avis personnel. Vous permettez d'en exprimer un autre aussi. Il s'avère que peut-être, comme beaucoup dans la salle, je travaille depuis une bonne trentaine d'années sur ces questions économiques. Et ça fait bien une bonne dizaine d'années que je critique, moi aussi, tous ces instruments de mesure, et notamment le PIB. Je peux vous dire qu'au vu des travaux de cette commission, je crois que c'est la première fois que je vois un ensemble de propositions relativement cohérentes et en tout cas novatrices remises ensemble et qui devraient déboucher sur quelque chose. Alors le quelque chose est très important. Qu'est-ce qui va advenir de ce rapport? On a tous en tête, la commission Attali, on a tous en tête un certain nombre de choses. Je crois que c'est aussi le travail peut-être de chacun. Vous avez dit, est-ce que la commission va coucher d'une souris? Je voudrais juste vous livrer un élément d'information. La petite souris continue à trottiner et elle va trottiner le mardi 17 novembre puisque l'INSEE va faire une conférence sur ce thème, c'est-à-dire sur le suivi de la commission Stiglitz, sur les suites que l'INSEE et la statistique publique entendent donner aux recommandations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, dont je parlais tout à l'heure. Il exposera ainsi les travaux qui seront mis en œuvre dans plusieurs domaines, comptabilité nationale, mesure de la qualité de la vie et du bien-être, développement durable et environnement. Il présentera également les initiatives dans lesquelles la France sera impliquée au plan international. Il y a quand même un certain nombre au sein de la commission d'intervenants qui, je suis désolé, qui ne s'étaient pas mis ensemble jusqu'à présent, c'est quand même la première fois, sur les deux ou trois chapitres que j'évoquais tout à l'heure. Il me semble que là, il y a quand même un vrai travail, encore une fois, qui est novateur. Alors, on verra ce qu'il en adviendra, mais je pense qu'il ne faut pas avoir de jugement a priori, comme vous l'avez formulé. En tout cas, c'est une remarque amicale, tout simplement. On accueille d'autres questions. Vous voulez dire un mot, Laurence, ou c'est bon? C'est bon, ça va, c'est bon, ok. Je vous en prie, je crois qu'il y avait au deuxième rang, madame avait une question. On n'oublie pas le fond de la salle, mais manifestez-vous. Hein.
Oui, bonjour. J'ai une question en fait sur la qualité, la mesure de la mesure subjective de la qualité de la vie. Hier, Daniel Cohen disait que, enfin, il reprenait les travaux d'Easterlin, je crois, et il disait que la satisfaction que les individus ressentent dans leur vie était principalement liée à la croissance du PIB. Alors, je me demandais si la commission avait, s'était inscrite dans ce schéma-là. Et une deuxième question d'ordre
plus fort, s'il vous plaît.
D'ordre plus général. Est-ce que la détermination de l'indicateur de la croissance économique ne doit pas faire l'objet d'une réflexion au niveau politique, mais international? Excusez-moi. Parce que c'est quand même un choix d'évaluation de la performance économique et de la performance de la politique économique qui doit être faite de manière coordonnée et de manière globale. Il me semble, dans une économie mondialisée où les choix s'organisent de cette manière-là.
Merci beaucoup. Laurence ?
Oui, alors je vais répondre d'abord sur ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin. Donc, en effet, Easterlin a montré que... quand on prenait un pays, en particulier les États-Unis, il y avait eu une hausse du niveau de vie moyen au cours des 25 dernières années et apparemment pas une hausse de la satisfaction dans la vie quand on la mesure en demandant aux gens sur une échelle de 1 à 4, comment vous vous situez en termes de satisfaction. Alors, en fait, les choses sont un petit peu plus compliquées que cela. D'abord, ce paradoxe d'Easterlin, il s'applique au revenu moyen. Mais en fait... on sait bien que le revenu moyen aux États-Unis, au cours des dernières 25 dernières années, il a baissé. Donc, ce n'est pas très étonnant que la satisfaction dans la vie n'ait pas augmenté. Ce qu'il faudrait plutôt comparer, c'est le revenu... le revenu moyen a augmenté, mais il faudrait comparer ça avec le revenu médian qui, lui, a baissé au cours des 25 dernières années. Si on compare l'évolution de la satisfaction dans la vie et le revenu médian, là, en fait, on constate qu'il n'y a plus vraiment de surprise. Hein. Ils évoluent plutôt de manière parallèle. Et d'autre part, ce paradoxe d'Easterlin, il ne s'applique pas quand on compare des pays. Si on compare, par exemple, la France, les États-Unis, le Danemark, tout ce qu'on veut, à un certain moment, eh bien, là, il y a une vraie corrélation entre le revenu du pays et la satisfaction dans la vie. Donc ce paradoxe d'Easterlin, il est quand même... pas si paradoxal que ça, finalement, et il a un certain nombre d'explications, en tout cas, qui ont été fournies par des recherches assez récentes. Peut-être deuxième point, c'est une commission qui était internationale, et l'objectif est bien évidemment c'est pas la France qui va modifier toute seule les mesures du bien-être, de la qualité de la vie ou du PIB. Hein. Et l'objectif, c'est bien évidemment, dans un premier temps, qu'au niveau d'Eurostat, l'Institut statistique de la Commission européenne, eh bien, on prenne des mesures pour modifier les mesures au niveau européen. Voilà.
Merci. On ne vous entend pas, madame. Qui doit prendre la décision, vous voulez dire, c'est ça?
Oui,
au niveau mondial?
Voilà, les statisticiens, vous voulez un G20 ou les politiciens G20 Est-ce que la légitimité revient aux experts ou à la politique?
Ou à la politique, c'est ça?
Politique, enfin.
Ça vaut pour bien des domaines. Hein.
Attendez, on peut, de ce point de vue-là, reprendre très exactement la comptabilité nationale. La comptabilité nationale a démarré avec des initiatives nationales dans différents pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, avec des méthodes qui étaient celles qu'avaient mises au point les statisticiens locaux. Et puis, au fur et à mesure du temps, les gens ont senti le besoin de pouvoir se comparer entre pays. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans tous ces problèmes de mesure, il y a deux dimensions. On voudrait avoir des indices qui nous permettent de nous comparer à nous-mêmes au cours du temps. Est-ce qu'on est mieux aujourd'hui qu'on était hier, ou est-ce qu'on est moins bien sur telle dimension de l'économie ou du bien-être? Est-ce qu'on est moins bien aujourd'hui qu'hier? Et puis l'autre dimension des indices, c'est de pouvoir se comparer entre individus différents, entre nations différentes. Et donc, dans la comptabilité nationale, relativement rapidement, les Nations Unies se sont saisies du problème de la mesure du produit intérieur brut, de la mesure du revenu national, ont réuni des statisticiens de tous les pays, leur ont dit, écoutez, on va se mettre d'accord sur un système international de comptabilité nationale, qui est d'ailleurs révisé tous les 10 ans, 15 ans, etc. Et quand je disais tout à l'heure, la commission Stiglitz a fait son office de réfléchir sur la façon d'aborder de façon beaucoup plus générale le progrès économique et le progrès social, il s'agit à l'heure actuelle, maintenant, que les statisticiens de différents pays, on vient d'avoir l'exemple de l'INSEE, et en même temps d'autres pays se saisissent de ce problème-là, qu'éventuellement un jour on débouche sur une discussion aux Nations Unies, peut-être d'abord dans un cadre européen, mais il me semble que c'est dans de cette façon-là qu'on travaillera dans la suite.
Merci. Je vous en prie. Il y a peut-être encore, parce J'espère. Que nous allons devoir respecter l'horaire qui nous est imparti, peut-être deux questions. Il y en a une devant. Est-ce qu'il y en a derrière? Je vois mal. Qui a le micro? Il faut prendre le micro. C'est un instrument de pouvoir. Hein. Oui, je vous en prie, oui. Question courte, s'il vous plaît, pour qu'on puisse...
Je vais faire très court. Il y a un auteur qui s'appelle Serge Latouche, qui a repris un instrument qui s'appelle l'indicateur de progrès authentique. Alors l'indicateur de progrès authentique, c'est simplement, ça se rapproche de ce que vous avez dit, c'est un indicateur qui prend en compte le PIB rapporté à la soutenabilité et à l'empreinte écologique de ce PIB. Et il disait tout simplement que pour les États-Unis, depuis les années 60... En rapportant le PIB à la soutenabilité de ce PIB, le PIB réel ou le PIB vert, vous l'appellerez comme vous voulez, des États-Unis, était négatif. Est-ce que vous confirmez cela ou est-ce que vous infirmez cela, tout simplement?
Non, je veux bien réagir. C'est vraiment réagir. Je ne connais pas du tout les travaux auxquels vous faites allusion. Et tout le problème est simplement de savoir quelle est la valeur que l'on va accorder aux différentes composantes qu'on cherche à prendre en compte. Dans tous ces problèmes de mesure ou de mélange de dimensions différentes de l'activité humaine ou des conséquences de l'activité humaine sur l'environnement, il y a ce problème majeur de la quantification. Didier Blanchet parlait tout à l'heure de est-ce que c'est 20 euros la tonne de carbone, de gaz carbonique, de carbone, ou est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 300? Il est évident que si on passe de 20 à 300, on ne va pas du tout avoir les mêmes mesures de la détérioration de l'environnement qu'on fait subir à l'environnement. Et quand on essaye d'agréger, encore une fois, on a insisté sur le fait que l'agrégation était une opération périlleuse. Lorsque l'on agrège en faisant des sommes, effectivement, on peut arriver à une détérioration qui est supérieure à ce qui a été produit. Mais la vraie question, c'est de savoir si les poids qui ont été utilisés, les valeurs qui ont été imputées, ont du sens ou n'en ont pas. Et encore une fois, la Commission essaye de réfléchir sur ces questions-là.
Merci. Nous avons le temps juste pour une dernière question. Je suis désolé. Mais oui, je vous en prie. Est-ce qu'il y a... Tout en haut, il n'y a pas de...
Oui, moi j'avais une question très courte à poser.
On ne vous entend pas, je suis
désolé.
Oui,
je voulais simplement savoir, est-ce qu'on peut consulter le rapport, sur quel site ? Je voulais savoir aussi, si vous dites que ce n'est pas un rapport qui est français, avec Stiglitz qui est américain, comment a eu lieu l'organisation en fait, du rapport, la coordination ? Est-ce que vous vous retrouvez souvent ? Chacun travaille de son côté ? À quelle fréquence ils se retrouvaient ? Voilà quelques éléments de réponse pour... et la durée, si j'ai bien compris, ça durait un peu plus d'une année. Merci.
Oui, moi, je peux essayer de répondre. Hein. Je parle sous le contrôle de Didier, qui étant rapporteur, pourra me corriger si je fais des erreurs. Mais effectivement, ce groupe était très international. Il y avait une minorité de Français, même une très forte minorité. Il y avait beaucoup d'Américains. Il y avait beaucoup la plupart étaient des économistes. Il n'y avait pas que des économistes au sens strict, hein, mais la plupart étaient comme c'est quand même un peu un rapport d'économistes, ça c'est une vérité. Alors comment on a travaillé ? Il y a eu des réunions à Paris, il y a eu des réunions à New York, ces réunions duraient 2-3 jours dans lesquelles les trois groupes fonctionnaient de façon séparée une partie du temps et en assemblée plénière pour le reste du temps. Ensuite, un rapport a été fait, chacun est intervenu. Il y a eu une période de mise au point qui est toujours assez délicate. Et je crois que maintenant il est publié.
Il est sur le site. Hein, il est sur le site Commission Stiglitz. Vous regardez, vous aurez tous les travaux. Ça a été très transparent, je crois qu'on peut le dire.
Vous l'ajoutez ou pas ? Ça doit sortir en français, je ne vais pas faire de publicité, mais chez l'éditeur Odile Jacob.
On était soucieux de limiter l'empreinte carbone, donc on a quand même beaucoup travaillé par mail et les moyens modernes permettent d'échanger de cette façon. Sur la remarque sur le caractère très américain du rapport, enfin plutôt franco-américain, je reviens à une conférence internationale où le rapport a justement été présenté, quelque chose organisé par l'OCDE qui a impliqué beaucoup de pays. Il y a eu cette réaction de dire oui, c'est plutôt un rapport franco-américain et donc notamment de la part des pays en développement ou des pays émergents, les questions que vous soulevez, c'est plutôt des questions de pays riches. Et donc ça rejoint une autre remarque qui a été faite. Hein, ce rapport, c'est pas le dernier mot sur le sujet. Ensuite, il y a une appropriation qui est à faire et une discussion par la société civile ou bien par les décideurs. Et ce forum de l'OCDE auquel j'ai participé était une bonne illustration de ça. Le rapport, il est sur la table. C'est un élément d'un mouvement. Mais ensuite, derrière ça, il y a toute une dynamique qui se met en place et dans laquelle les experts n'ont absolument pas le dernier mot.
Merci beaucoup. Il nous faut malheureusement en rester là. Je voulais remercier en votre nom nos 4 intervenants. Et vous remercier aussi, vous, pour avoir été aussi nombreux et jusqu'au bout. Je vous invite à assister aussi nombreux à la prochaine session. Merci à vous et bonne journée économique de Lyon. Merci à nos intervenants.